Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, deuxième partie de notre magazine Escale, consacrée aux langues régionales en France. Outre le français, 8 principales langues régionales sont parlées sur le territoire de l'Hexagone. Un patrimoine linguistique que font vivre plus de 2 millions de Français. Mais à l'heure actuelle, peu de mesures existent pour assurer la survie et la transmission de ces langues qui bénéficient pourtant de différents statuts dans des pays voisins.
Ich bin der Thierry Kranzer. Ich bin im Elsass geboren in 1988 und ich schaffe in der UNO seit 2001.
Alsacien d'origine, Thierry Kranzer est attaché de presse au département de l'information de l'ONU, mais aussi l'auteur du livre « Langue régionale au bord du gouffre », ouvrage qui se présente comme un véritable plaidoyer pour la survie des langues régionales en France.
Depuis Jules Ferry, depuis la fin du 19e, il y avait cette chasse au patois, comme ils appelaient ça. Il y a cette chasse au patois qui s'organisait. Donc jusqu'à il y a une soixantaine d'années, on avait en Corse, en Bretagne, au Pays Basque, dans les écoles publiques, il y avait ce fameux panneau qui disait « Il est défendu de cracher par terre ou de parler basque. Il est défendu de parler breton et de cracher par terre. » Donc, à tous les niveaux, il y avait, j'appelle ça la ségrégation linguistique qui était organisée autour de la délation, l'infériorisation. Et ça a touché ce que j'appelle les 8 grandes langues régionales de France.
Pour Thierry Kranzer, il s'agit non seulement de faire valoir les droits culturels des locuteurs d'Alsaciens, de Basques, de Bretons, de Catalans, de Corses, de Flamands, d'Occitans ou encore de Savoyards, mais aussi de faire fleurir la compétitivité économique des régions de France.
J'ai décidé de rédiger ce livre après avoir pu constater à l'ONU, notamment au Conseil économique et social, qu'on avait toute une liste d'études, de rapports qui montraient les liens entre la diversité linguistique et le développement économique, entre l'identité et la compétitivité. Et donc je voulais m'appuyer sur mon expérience personnelle aussi d'ancien assistant parlementaire pour mettre en évidence en fait les lacunes du cadre institutionnel en France pour les langues régionales qui fait qu'on ne peut pas tirer de potentiel de l'existence de ces langues et au contraire on les laisse mourir.
Dans la première partie de ce magazine, Thierry Kranzer s'est longuement penché sur le phénomène de chômage linguistique qui selon lui a récemment pris beaucoup d'ampleur dans des régions comme l'Alsace et la Lorraine où l'enseignement de la langue régionale n'est plus promu. De ce fait, arrivent actuellement sur le marché du travail les premières générations de jeunes monolingues qui, n'étant pas germanophones, n'ont plus accès aux possibilités d'emploi en Suisse ou en Allemagne. Mais alors que la presse indique que le débat actuellement en cours en France autour de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ne semble pas augurer une ratification prochaine, quel avenir peut-on envisager pour les langues de France ? Et quelle est la réaction des organes de défense des droits de l'homme de l'ONU ?
Votre livre porte principalement sur la France et sur l'intégration européenne. Quels sont certains exemples d'intégration réussie des langues régionales ailleurs en Europe ? Des exemples qui pourraient être émulés pour la France ?
Déjà, ailleurs, on ne les appelle pas langues régionales, on les appelle les autres langues nationales. Déjà, ça, en termes de clichés, de stéréotypes, voilà, déjà, le débat est déjà mal posé. Pourquoi est-ce qu'on appelle nos langues régionales ? C'est déjà une mauvaise connotation. Ce sont des langues du pays, et donc dans les autres pays, par exemple la Belgique, voilà, il y a 3 langues. On parle souvent du français et du flamand, mais on oublie qu'il y a une troisième langue officielle qui est l'allemand. Il y a 100 000 locuteurs à l'est de la Belgique. Par respect de ces 100 000 locuteurs, on a fait de l'allemand la troisième langue officielle de Belgique. Toutes les écoles sont germanophones. Le système judiciaire est germanophone. Et aujourd'hui, ces germanophones de l'est de Belgique sont un ciment de l'identité nationale belge. En Allemagne, par exemple, il y a des dispositions pour la minorité danoise du nord de l'Allemagne. Il y a des dispositions pour même des minorités serbes de la région de Berlin. L'Italie, par exemple, qui devrait être un modèle pour la France, parce que l'Italie est une république une et indivisible comme la France, mais dans sa constitution, elle s'engage à protéger la diversité linguistique et l'autonomie des régions. Donc la plupart des régions ont 2 langues officielles. Le Val d'Aoste a le français comme langue officielle. Le Frioul a le frioulan comme langue officielle. Le Sud-Tirol a l'allemand comme langue officielle. Le Sarre langue officielle, même si la mise en œuvre semble un peu difficile chez les Sardes. Sinon, l'Espagne, pareil, il y a plusieurs langues officielles. En fait, généralement, dans le monde entier, on se rend compte que quand il y a une diversité linguistique, le réflexe, c'est de la protéger, de la mettre en valeur. Il y a eu à Strasbourg, il y a 6 mois, un rassemblement d'experts sur la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales et leur valorisation, avec des experts de tous les pays européens. Et la conclusion de ce colloque, c'était que dans tous les pays de l'Union européenne, la diversité est perçue comme une opportunité. Et en France, c'est encore le seul pays où elle est perçue comme un problème. Voilà, donc c'est culturel, c'est politique, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin. Il y a étonnamment, c'est bizarre, il n'y a pas eu de rupture sur ce thème-là entre la monarchie absolue et la République. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de révolution sur la question de la diversité linguistique, alors qu'au départ, en 1789, il y a eu effectivement des avancées dans ce sens-là. C'est-à-dire que les révolutionnaires ont décidé de publier les premières lois adoptées par l'Assemblée nationale en breton, en allemand, en occitan. Les révolutionnaires avaient décidé de donner des primes aux instituteurs bilingues, et c'est plus tard Robespierre, la Terreur, qui sont revenus aux positions de la monarchie absolue sur cette question-là, et depuis on n'en est jamais sorti.
Quelle est la position de l'ONU, la réaction de l'ONU par rapport à cette situation en France? Parce que la France est tenue de présenter des rapports à plusieurs organes de défense des droits de l'homme, notamment le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
En 2008 comme en 2001, d'ailleurs au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les experts s'étonnent toujours de cette réticence de la France, invitent la France à ratifier la Charte européenne des langues régionales, invitent la France à ratifier la Convention cadre des minorités, qui sont vraiment des minima, c'est des minima, c'est pas des textes ambitieux, c'est des minima de droits de l'homme. Donc ils sont toujours inquiets, ils sont toujours étonnés des freins, notamment une réserve mise à la Convention des droits de l'enfant. Voilà, il y a une réserve à l'article 12 qui concerne la langue maternelle des enfants. Là aussi, on a malheureusement pas ratifié la Convention du droit des enfants dans son ensemble, mais en mettant une réserve à l'article 12. Donc à chaque fois, que ce soit les institutions européennes ou les institutions onusiennes, chaque fois que notre pays doit présenter un rapport sur la question des droits de l'homme, il y a un consensus chez les experts internationaux sur le fait que voilà, il faut ratifier ces textes minimalistes.
Et quelle est cette réserve qui a été posée aux droits de l'enfant?
La Convention des droits de l'enfant donc précise que les enfants de France ou d'autres pays doivent avoir accès à une éducation dans leur langue maternelle. Et voilà, la réserve tient sur cet article par laquelle la France a voulu se libérer de cette obligation d'offrir aux enfants une éducation dans leur langue maternelle.
Mais précis à galon caron pan guivro brudet eo an arbodre arbet trodro.
Vu la conjoncture actuelle, vu le rapport actuel avec ces autres langues de France, êtes-vous plutôt optimiste?
Mais c'est ce que je dis un peu dans mon livre, c'est que tout va se jouer dans les années qui viennent. J'ai déjà l'impression qu'il est trop tard. Je pense que ce gouvernement sera celui qui va sauver les langues ou qui va les condamner à mort. Parce que là, on est arrivé à des niveaux de locuteurs. On est dans toutes les régions concernées. On doit être entre 0 et 2% de locuteurs. Donc, on est proche de l'extinction chez les enfants de moins de 10 ans. Donc, François Hollande vient de relancer il y a quelques semaines le processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales, qu'il a confié à Madame Christiane Taubira. Alors, c'est un peu l'appel de la dernière chance. Il faut savoir que même si la charte est ratifiée, ça ne va pas sauver les langues régionales. C'est juste qu'on va relever un peu la barre de la tolérance. Parce que cette charte des langues régionales, c'est un peu à la perception de la diversité, c'est que le SMIC est au salaire. C'est un minimum. C'est rien d'extraordinaire. Mais si ça serait une première loi, ça serait un premier cadre de protection des langues minoritaires. Bien que ça sera pas suffisant pour autant pour faire revivre une langue et pour faire émerger des sociétés réellement bilingues en France.
Parce que 2% de locuteurs, c'est 0 à 2%, c'est vraiment si peu, la bataille semble déjà perdue.
La bataille semble déjà perdue, sauf qu'on a des exemples dans le monde qui ont montré qu'on pouvait passer de 0 à 100% en 3 générations. Il faut 3 générations pour tuer une langue, il faut 3 générations pour la reconstruire. S'il y a une volonté, on peut passer de 0 à 100. Et le meilleur exemple, c'est Israël. Israël, en 48, personne ne parlait hébreu. L'hébreu, c'était la langue morte, c'était la langue que maîtrisait seul les religieux. Voilà, et sur 2 générations, 3 générations, on est passé en Israël de 0 locuteur à 100%. On oublie qu'en 67 et en 73, lors de la guerre de 6 jours et lors de la guerre de Kippour, les ordres aux soldats israéliens étaient donnés en 7 langues. Pourquoi ? Parce que ils venaient d'Allemagne, ils venaient de France, ils venaient des États-Unis, donc ils parlaient tout sauf l'hébreu. Donc les ordres étaient donnés aux soldats dans 7 langues. On a d'autres exemples, on a l'exemple du yiddish à Brooklyn. Le nombre de locuteurs yiddish à Brooklyn augmente parce qu'on a des écoles à immersion en école maternelle. On a l'exemple, c'est pas aussi loin que ça, le québécois, en 67-68, quand il y a eu les premières lois linguistiques, l'avenir de la langue française au Québec n'était pas rose. Et on a d'autres provinces qui étaient francophones au Canada, qui n'ont pas profité des mêmes cadres institutionnels que le Québec, où on voit le nombre de francophones diminuer d'année en année. Le Nouveau-Brunswick, qui a généralisé l'enseignement bilingue français-anglais, est proche de 100% de francophones aussi. Donc voilà, tout est possible, mais au départ, il faut un minimum de volonté politique, et ça veut dire un cadre institutionnel fort. Et en France, ça passe d'abord par la ratification de la Charte européenne des langues régionales, ensuite par des objectifs ambitieux d'effectifs bilingues en maternelle qui devraient atteindre 30% plus vite possible.
Un argument qui est souvent présenté, c'est que le français langue unique permet d'unifier la nation.
Depuis la France a toujours été unie. En 14-18, par exemple, 50% des soldats qui se sont battus pour la France ne parlaient pas le français. Donc on l'oublie. On oublie qu'à la prise de la Bastille, en 92, les 300 Bretons et les 500 Marseillais, parce qu'ils étaient 800, on l'oublie, ont pris la Bastille, ils ne parlaient pas forcément le français. On oublie qu'à Valmy, c'était une bataille décisive qu'ont mené les sans-culottes. Et on estime qu'à l'époque, 20% des soldats de la Révolution parlaient français. Donc on était unis sans que la langue française soit une langue unique. Or, je remarque que le patriotisme diminue parallèlement à l'augmentation du monolinguisme en France. J'ai l'impression que la France n'a jamais été aussi désunie et elle n'a jamais été aussi monolingue. Moi, je vois plutôt un parallèle entre fin de la diversité linguistique et fin de la solidarité qui va avec, parce que ces diversités linguistiques, c'est des enracinements, c'est l'école de la solidarité. Et si on regarde vraiment l'histoire de France, on se rend compte que la France n'a jamais été aussi unie que quand les Français ont parlé autant de différentes langues. Le français doit rester notre langue commune, mais si elle devait devenir notre langue unique, je pense que ce sera la fin de l'unité nationale.
Et à votre avis, ce rapport difficile, disons, avec les langues régionales, est-ce que cela se fait aussi ressentir sur la capacité d'intégration des communautés immigrées issues d'autres pays que l'Europe, par exemple, d'Afrique du Nord?
Oui, moi je pense que justement, si on n'est pas capable d'intégrer à notre histoire nationale la diversité linguistique de France, comment voulons-nous intégrer des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres continents? Je crois que intégrer les langues régionales, ça peut être la meilleure école pour intégrer d'autres langues, tout en respectant le concept d'unité dans la diversité. On l'a vu chez nous, en Alsace-Lorraine, on a eu des vagues d'immigrés polonais qui sont venus travailler dans nos mines de charbon, mines de sel, également dans le nord de la France. Et ces gens-là ont été très très vite intégrés, en flamand dans le nord, en alsacien chez nous, en lorrain, en Lorraine. Et en fait, c'était un élément d'intégration dans le territoire national. Et aujourd'hui, je crois que cette une langue, une nation est une violence symbolique qui... On est en train de dire aux gens, vous devez être ceci ou cela. Alors qu'aujourd'hui, la recette, c'est de dire, vous pouvez être ceci et cela. Et non plus avoir à faire un choix entre ceci ou cela. Donc plutôt et que ou. Voilà, les langues régionales, cette diversité qu'on a à nos portes, c'est une école pour apprendre à intégrer dans la diversité. Dove vinca tua, euskaldun en artean,
guztiz maitatua. En guise de conclusion, est-ce que je peux vous demander de dire quelques mots en alsacien?
Oui, bien sûr, ouais, c'était inattendu. As freit mich, as ich a grossi freit, as ich hätte auch. Meine Idee habe ich keine Ausdrucke auf die Sendung von der Vereinten Nationen. Es hat mich viel gefreut. Ça m'a fait beaucoup plaisir.
Et c'est sur cet appel de Thierry Kranzer pour le respect de la diversité linguistique française que se referme cette deuxième et dernière partie de notre magazine Escale consacré aux langues régionales en France. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.